Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, on est le 1er juillet et la campagne de crowdfunding de Fleur d'Avocat court encore jusqu'à lundi 6 juillet 2020, jusqu'à 23h59. Et donc, si vous n'avez pas encore pris le temps de contribuer, eh bien, il est tout à fait encore temps, en tout cas si vous écoutez ce podcast entre le jour de sa parution, c'est-à-dire le 2 juillet et le 6 juillet. Voilà, l'objectif est atteint à hauteur de 76%. Donc pour valider les contributions, pour valider cette campagne, il faut atteindre les 100%. Mais à hauteur de 76%, vraiment tout est possible. Donc il n'y a pas de petits dons. Je ne sais pas combien vous êtes à écouter cette interview précisément de Karine Duperron que je vais vous présenter juste après pendant cette période. Mais ce qui est sûr, c'est que vous étiez plus de 2700 à écouter le podcast de Fleur d'Avocat cette dernière semaine, ces 7 derniers jours. Donc globalement, si chacun d'entre vous donne 2-3 euros, c'est plié. J'ai pas refait le calcul comme je l'avais fait la semaine dernière, mais c'est plié. Donc tous vos soutiens comptent, les petits soutiens comptent aussi, et ça change vraiment la donne. Aujourd'hui, mon invité est donc maître Karine Duperron. Karine est avocate depuis l'an 2000. Je trouve que c'est très classe d'être avocate depuis l'an 2000. Elle est aujourd'hui associée au sein du cabinet Darrois Villiers Maillot Brochier et elle exerce tout particulièrement en arbitrage, international. Et elle est aussi arbitre. C'est une recommandation de Flore Polony, de maître Flore Polony. Flore qui nous a aussi recommandé tout récemment maître Laurent Dubois. Vous allez vous dire que c'est un lobbying de Fleur Polony. Pas du tout, il se trouve qu'elle m'a recommandé Karine il y a maintenant plus d'un an, je pense. Et qu'ensuite j'ai mis du temps à contacter Karine et que Karine a mis du temps à me recontacter à son tour et que le micmac des recommandations et du temps a fait qu'il y a un petit peu un embouteillage des recommandations de Fleur Polony. Ce début d'été, mais cela dit j'en suis ravie puisque c'est une auditrice fidèle de Fleur d'Avocat et qui me soutient beaucoup dans mon projet, donc c'est un plaisir. En tout cas, vous allez voir que c'était un plaisir pour moi d'échanger avec maître Karine Duperron, qui a vraiment partagé son parcours et ses différents choix, et, enfin, avec beaucoup de générosité. Et je discutais récemment sur LinkedIn avec une avocate qui est counsel dans un gros cabinet qui me disait que des parcours comme celui de Caroline Dio, celui aussi d'Anne-Sophie Nourry, l'avait beaucoup aidé à comprendre certains blocages face auxquels elle se trouve dans sa carrière et à comprendre quel autre type de position, de posture est-ce qu'elle peut adopter pour avancer dans le sens où elle veut avancer. J'ai discuté aussi sur Instagram avec une auditrice qui me disait que c'était ses préférées, c'était les girls boss. Et bien là, on est tout à fait face à une girls boss et il y a vraiment de quoi en tirer de la graine. Je vous souhaite en tout cas beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'inspiration. Je vous dis une bonne écoute, une bonne contribution aussi, n'oubliez pas. Et bien évidemment, à la semaine prochaine. Bonjour Karine Duperron.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée.
Alors Karine, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Et surtout pourquoi.
Oh, longue histoire. Alors, moi j'ai commencé des études qui n'étaient pas des études d'avocat et je n'avais pas particulièrement d'appétence pour le droit que je voyais de loin. Et donc il y a fort longtemps, j'ai fait des études au début scientifiques, une prépa, une école de commerce. Et puis en école de commerce, j'ai eu un excellent professeur de droit. Et les deux phénomènes qui étaient un excellent professeur de droit et une relative déception des cours ou des carrières qui étaient proposées en école m'ont fait creuser en fait le droit. Donc à l'époque, j'ai passé ce qu'on appelait le DEUG en même temps que mon école et puis ensuite une licence et puis ensuite une maîtrise. Et à chaque année, en fait, qui passait, ça me confortait dans l'idée que j'aimais la matière, que j'aimais le raisonnement, que j'aimais les lectures que je faisais, que j'aimais les gens que j'y croisais, et qui donc, in fine, m'ont amené à construire ça, et avec un peu d'opportunisme, à me dire que finalement, la légère bifurcation au début par une école de commerce était en plus quelque chose que le marché appréciait, donc qui n'était pas du temps perdu et qui faisait sens dans la construction d'un métier qui était celui qui m'attirait, mais plus tard que quand j'avais 18 ans, c'était plutôt 21, 22.
Ouais, quand vraiment à la découverte de la matière dans le cadre.
À la découverte de la matière, oui, c'était une vraie découverte intellectuelle.
Oui, comme Anne-Sophie Nourry de chez qui fait du restructuring chez Whale, pareil, elle a eu un coup de cœur sur le droit pendant son école de commerce.
Oui, ce qui fait réfléchir à ces orientations très jeunes qu'on fait en France, et puis ce qui fait se dire qu'en fait on a quand même toujours un moyen de retrouver ou d'aller là où on veut aller.
Et est-ce que vous avez fait des stages à un moment dans vos études? Comment est-ce que, enfin, au niveau pratique, comment ça s'est déroulé pour vous?
Alors oui, les stages, je pense pas qu'on puisse faire sans, et puis surtout ça permet quand même de voir si on aime vraiment bien le métier. Alors quand j'étais en école de commerce, j'ai fait des stages qui n'avaient rien à voir avec le droit, normal. Ensuite, j'ai travaillé un peu en banque pendant que je continuais mes études de droit. Donc c'était relativement alimentaire.
Vous faisiez quoi en banque ?
Alors j'étais en middle office à la Société Générale et je travaillais sur des contrats qui s'appelaient des repurchase agreements. Donc il y avait une vague considération juridique, mais qui était sur des produits dérivés. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis ensuite, une fois que j'ai eu un peu plus de pédigré en droit, là j'ai fait des stages en droit. Donc mon premier stage était un stage généraliste dans un cabinet d'affaires parisien, et puis de fil en aiguille. Mon deuxième stage était en fait un stage de très longue durée qui était l'équivalent d'un contrat de trainee dans un cabinet anglais à Singapour. Mmh.
Voilà. Et est-ce que vous vous souvenez de ce premier stage en cabinet, dans un cabinet généraliste d'affaires à Paris ?
Oui, je m'en souviens très bien, oui, absolument.
Comment a été cette découverte ?
Alors, c'était une découverte troublante parce que, au fond, j'étais... où je me sentais la moins juriste de tous, d'abord parce que finalement je n'étais à l'époque qu'en licence, même si j'avais fait d'autres choses avant, et l'essentiel des stagiaires était ce que je considérais à l'époque comme des vrais juristes, c'est-à-dire des gens qui avaient fait 5-6 ans de droit, qui étaient pour la plupart passionnés déjà par le droit. Et donc moi, je me sentais finalement un peu comme là, par hasard, et puis qui en savait forcément moins que les autres, et puis qui n'avait pas fait ça à plein temps, contrairement aux autres, puisque moi, mes deux premières années, je les faisais en même temps que mon école de commerce, donc c'était plus erratique comme apprentissage. Voilà, donc c'était intéressant, très chouette, une vraie plongée dans un monde... qui est un monde particulier, qui est celui des cabinets d'avocats, parce qu'en fait, c'est des mondes où tout le monde a fait le même métier, ce qu'on n'a pas en entreprise, ou dans une entreprise, il y a 1000 métiers différents. Donc, j'avais l'impression de rentrer dans un monde très uniforme et de pas être tout à fait au niveau des autres, ou en tout cas d'avoir la même le même parcours ou le même chemin que les autres, et d'être un peu moins forte ou un peu moins affûtée.
Et ça, est-ce que ça s'est dispersé, ce sentiment, au fur et à mesure de ce stage, ou est-ce que ça s'est dispersé après ?
Non, je pense que ça s'est dispersé de manière continue jusqu'à ce qu'à un moment je me sente vraiment chez moi, dans un cabinet d'avocats. Mais ça a commencé à se disperser dès ce stage où on passe les premières semaines, les premiers mois, et puis, alors c'était un stage qui devait faire 3 mois seulement. Ça s'est pas dispersé tout de suite, en tout cas. C'est certain que ça a mis des années à se disperser, à s'évaporer, mais ça a commencé assez rapidement aussi.
Et vous avez dit sur le caractère un peu uniforme du métier. Est-ce que ça vous causait des appréhensions? Est-ce que vous vous disiez que il faut être d'une certaine manière ou que qu'est-ce que ça crée chez vous cette sensation d'uniformité?
Alors, c'est un terme qui est peut-être pas le plus adéquat parce que je pense chez les avocats comme partout qu'il y a des personnalités différentes. Au demeurant, on a des spécialités différentes. Mais ce qui, moi, me saisit dans les cabinets d'avocats et dans le métier en général, c'est que nous sommes toujours des structures de taille réduite, notamment parce que même les plus grands cabinets qui comptent quelques milliers d'avocats, finalement, à la taille d'un bureau, dépassent très rarement le millier, et en France, beaucoup moins, avec quand même des gens qui, encore une fois, n'ont qu'un seul métier et avec une hiérarchie très plate. Ce qui n'empêche pas les gens d'être très différents, les pratiques d'être très différentes, les rythmes d'être très différents, les états d'esprit d'être très différents. On n'a pas du tout le même état d'esprit quand on fait du contentieux, du M&A, de la fiscalité. Mais on est quand même dans un environnement où on a un terreau commun qui fait qu'on se parle, je trouve, facilement, qu'on échange facilement, que l'on partage facilement. Alors, ça, c'est qui est une richesse. Après, on peut se dire que dans des entreprises où il y a d'autres métiers, évidemment, il y a d'autres richesses. Mais au fond, ce point commun avec, après, toutes les différences des individus, qui restent des individus très différents, est assez agréable. Voilà, ou en tout cas, est intéressant.
Ça vous avait plu. Et alors après, vous partez à Singapour?
Alors oui, je suis partie à Singapour, ce qui était l'année de ma maîtrise. Où un cabinet anglais m'avait proposé d'aller faire un stage. En fait, j'avais le même statut que les trainees anglais, qui sont ces pré-avocats qui, les deux premières années de leur pratique, sont considérés comme en formation, donc ont des postes différents tous les 6 mois pendant 2 ans. Donc j'avais un statut assimilable à celui-là, et j'y ai passé une dizaine de mois.
Et comment ça s'est passé?
Et ça s'est très bien passé. Moi, j'étais très, évidemment, très enthousiaste, très curieuse. Moi, je fais partie des gens qui étaient très intéressés par Singapour et plus intéressés que critiques, parce que c'est souvent un lieu commun que de critiquer cette île qui est une démocratie sans lettres, toute petite, très uniforme, avec des règles très... très strict, et puis une appétence pour la consommation, bon voilà, donc tout ce qu'on peut critiquer d'un point de vue européen. Mais moi, j'étais vraiment fascinée par l'endroit.
Qu'est-ce qui vous fascinait?
Moi, ce qui me fascinait, c'était le succès de l'île, en fait, qui quand même avait eu une indépendance d'ailleurs forcée, parce que finalement c'est la Malaisie qui s'était séparée de Singapour, plus que Singapour de la Malaisie, qui n'était même pas indépendante en eau potable les premières années de son indépendance, donc à la fin des années 50, et qui finalement a construit un système qui avait beaucoup de défauts, mais aussi beaucoup de vertus et une forme de solidarité étatique. Alors, étatique? Donc il y a beaucoup de bémols, hein, mais qui faisait qu'il y a très, c'est un pays où il y a très peu de laissés pour compte. Et c'est un pays qui a donné, en termes de santé et en termes d'accès à l'éducation, des opportunités incroyables à sa population. Et quand on regarde aujourd'hui les classements de Shanghai et qu'on voit que l'université de Singapour est dans les 3-4 meilleurs du monde... C'est quand même assez fascinant. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. Il ne t'empêche que...
En tout cas, vous, ça vous fascinait. Et est-ce que cette fascination, est-ce que cet intérêt pour cette île est venu du fait de cette proposition de ce cabinet anglais d'aller y faire un trainee pendant 10 mois? Ou est-ce que c'était déjà une zone du monde, un sujet qui vous intéressait? Enfin,
non, alors c'était vraiment par hasard.
Par hasard, ouais. Ouais.
Ouais. Et de loin, je pense que j'aurais... Enfin, j'étais très contente d'y aller pour tout ce que ça représentait d'exotique, mais je n'étais pas fascinée avant ou plus intéressée que ça. Il y avait d'autres pays qui étaient tout largement aussi attirants.
Ouais. Et sur place, comment ça s'est passé?
Et sur place, c'était d'abord l'apprentissage d'un métier. J'étais encore toute jeune, dans un tout petit cabinet qui venait de monter son bureau. Donc avec beaucoup de, une grande qualité de transmission de la part des associés vis-à-vis de gens comme moi, qui pourtant n'étaient pas des pierres angulaires du fonctionnement. Donc voilà, donc beaucoup d'apprentissage, beaucoup de transmission, beaucoup de bienveillance, et puis finalement de l'apprentissage qui était à tout niveau, parce que évidemment c'était professionnel, mais personnellement je découvrais aussi, je crois à l'époque j'avais mis les pieds en Asie avant, et Singapour est particulièrement bien placé. Donc voilà, donc c'était beaucoup de curiosité satisfaite.
Vous travaillez sur quel type de dossier ?
Alors à l'époque je faisais du financement de projet. Ce que je ne fais plus du tout.
Ouais. Et donc, c'était du droit local de Singapour, c'était...
Alors, c'était au fond du droit anglais. Et après, c'est en réalité du contrat. Donc c'était vraiment de la négociation de contrat qui évidemment est rattachée à un droit, mais beaucoup d'aspects de la négociation sont quand même des aspects de d'équilibre des parties, de bon sens, de logique dans la construction contractuelle. Qui était surtout ce que j'ai appris là-bas, je pense.
Donc du coup, à ce stade-là, finalement, vous êtes, c'est intéressant parce que donc vous venez de cet univers d'école de commerce, vous vous êtes formé au droit en cours de route, mais sans que ce soit un pilier de formation très fort. Vous avez ce court stage dans un cabinet d'avocats généralistes, ce passage à la Société Générale, mais comme vous dites, c'était, enfin, il y avait de vagues considérations juridiques, mais c'était pas le cœur. Et là, c'est pareil. Vous poursuivez sur un stage où vous en sortez pas en vous disant je suis une vous en sortez pas comme technicienne du droit, quoi, c'est ça que je veux dire.
Non, c'est vrai. Alors je l'avais jamais formulé comme ça. Le stage que j'avais fait en France était un vrai stage en droit où donc ce premier stage où vraiment j'avais manipulé la documentation juridique jusqu'au bout du bout d'une recherche. C'était pas du tout le cas en banque et moins le cas peut-être à Singapour. Peut-être aussi parce qu'il y avait un autre trainee sur place qui lui était formé en droit anglais. Donc les recherches les plus juridiques se dirigeaient vers lui. Même si j'en ai fait quelques-unes et qu'au fond c'est jamais inatteignable. En revanche, c'était très formateur en termes de compréhension de la structuration d'un grand projet d'infrastructure, de quels sont tous les contrats nécessaires de financement, de construction, de maintenance, d'exploitation, les contrats avec les banques. Voilà, donc toute cette machine-là structurelle était intéressante.
Et quand vous rentrez de Singapour, dis-moi plus tard.
Et quand je rentre de Singapour, donc je passe tout de suite mon concours d'avocat, puisque je passe et ma maîtrise et mon concours d'avocat, l'une après la première, enfin d'abord la maîtrise, puis le concours d'avocat, et ensuite je fais l'EFB dans la foulée, voilà. Et puis ensuite le bureau parisien, donc qui était Herbert Smith, qui était le cabinet anglais de Singapour, m'embauche en tant que collaboratrice à Paris.
C'est aussi là que vous avez fait vos derniers stages dans le cadre de l'école ?
Oui, absolument, absolument. Mmh. C'est là que j'ai fait... En fait, tout s'est fait dans la continuité. Ça s'était bien passé à Singapour. Donc après, j'étais tenue de faire l'EFB. Là, c'est présentiel. Le stage également. Donc c'était assez logique, finalement, que Herbert Smith Paris, puisque j'avais demandé à Herbert Smith Singapour de me recommander auprès de leur cabinet parisien, m'a pris en stage et puis juste après ça, m'a embauchée.
Ouais, et on vous a embauchée en financement de projet encore ou dans une autre matière ?
Et on m'a embauchée en financement de projet.
Donc vous avez vraiment commencé votre carrière dans le financement de projet ?
Donc j'ai vraiment commencé ma carrière en financement de projet, exactement.
Ouais. Et ces premières années de collaboration ?
Alors, elles ont été extrêmement formatrices. Je suis restée quelques mois supplémentaires en financement de projet. Et puis, plus le temps passait et plus j'étais très attirée par le contentieux et puis par l'arbitrage. Donc, je lorgnais vers les associés qui s'occupaient de cette pratique.
Qu'est-ce qui vous intéressait ?
J'aimais beaucoup l'écriture, en fait, et alors justement le raisonnement juridique et la recherche, qui était bien plus poussé, bien plus articulé quand on, voilà, quand on a un problème très précis, qu'il faut qu'on trouve la bonne jurisprudence sur un point pour essayer de faire ce point, versus une approche qui est plus d'affaires. Dans des pratiques qui sont de financement de projets, droit des sociétés, de corporate, de M&A, etc. Donc cet aspect-là qui finalement, c'est-à-dire plus le temps passait, plus j'étais avocate au sens traditionnel du terme. Et donc le métier traditionnel, c'est effectivement celui du contentieux.
Et donc vous lorgniez vers ces associés des autres pratiques et comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est déclenché de cette lorgnette?
Alors, c'est toujours un peu de chance et puis un peu de un peu de direction qu'on essaye à donner. À l'époque, Herbert Smith à Paris était assez petit. Donc des jeunes collaborateurs pouvaient quand même être sollicités par un département ou un autre. D'autant que moi j'y avais été stagiaire et que donc en tant que stagiaire finalement là vous êtes encore plus polyvalent et donc finalement il y a une espèce de calcul de ma part sans doute et puis de bienveillance de la part de ces trois associés qui étaient Sophie Brézin, Denis Chemla et Charles Kaplan qui ont fait que finalement, sans que ce soit formalisé un jour en particulier, ou alors peut-être qu'ils l'ont formalisé entre eux et que moi j'étais en dehors de ces discussions, parce que j'étais quand même toute jeune. J'ai lentement migré vers le contentieux et l'arbitrage.
Et vous avez parlé de calcul de votre part. Est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas, d'une démarche que vous avez faite qui a peut-être, pas officialisé, mais qui vous a fait sortir du bois, entre guillemets, sur le fait que vous souhaitiez aussi travailler sur d'autres pratiques qui auraient enclenché cette mutation, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, non, je pense que c'était du soft power.
Parlez-nous de soft power, je veux tout savoir du soft power quand on est collaborateur.
je pense qu'effectivement ça peut rentrer dans une partie conseil. Je pense qu'il ne faut pas toujours formaliser les choses trop tôt ou les formaliser tout court. Et qu'en réalité, si vous voulez donner une orientation à votre carrière, au fond, il vaut mieux aller voir les personnes qui sont prêtes à vous accueillir dans leur pratique, qui sont prêtes à vous faire travailler, qui sont prêtes à vous donner des choses, et puis voir en fait si cette évolution n'arrive pas à se faire naturellement, de telle manière qu'à un moment, en fait, elle soit acquise. Et qu'on se dise,
elle est là.
Voilà, elle est là. elle fait surtout ça aujourd'hui. Alors, on ne peut pas toujours faire ces évolutions sans que quand même des gens ne réagissent et disent à un moment « mais je suis en train de perdre ma ressource
». Mais elle me dit que je ne suis plus prioritaire sur ce dossier.
Voilà. Donc, mais au fond, souvent chercher à formaliser des choses très tôt de manière prémature quand vous n'êtes d'ailleurs pas forcément certain que l'équipe vers laquelle vous voulez vous tourner soit elle-même prête à vous accueillir ou ne soit pas en porte-à-faux vis-à-vis d'une autre équipe qui va dire mais moi j'ai recruté quelqu'un donc en réalité c'est moi qui l'ai recruté pas toi. Voilà, c'est une espèce d'alignement de planètes, mais moi je suis souvent amusée quand je vois des jeunes collaborateurs qui ont absolument besoin d'ancrer les choses dans des politiques formelles, dans des décisions formelles. Alors c'est peut-être pour ça que je suis dans ce cabinet ici, chez Darrois, où en fait les choses sont très peu formelles, très peu formalisées, notamment dans les pratiques, parce qu'il y a une idée que les gens doivent quand même toucher à plusieurs choses. Et donc, donc en fait, il n'y a pas de structuration aussi nette qu'on peut les connaître dans les cabinets anglo-saxons, où il y a peut-être plus d'obstacles à surmonter. Mais voilà, ça c'est mon conseil sur le soft power.
Ouais. Et donc, ce soft power fait que vous intégrez par la force du soft power une équipe plus contentieuse arbitrage.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et... Encore une fois, ce que j'ignore, c'est, je pense pas que ça n'a pas été fait au vu et au su des associés, mais à l'époque, moi j'avais 1 ou 2 ans d'expérience, les discussions qui sont entre associés, on les voit pas.
Mais votre associé d'origine, il vous a jamais fait une remarque sur le fait que, bah, en fait, vous travaillez plus pour lui?
Ça a été un moment. Alors, j'ai pas vraiment eu de remarque. Ça a été un moment, un acquis. Ça a été un fait accompli. Oui, voilà. Non, c'est pas. Il y a pas eu de. Je ne peux pas souvenir, en tout cas, de fâcherie. Et puis moi j'avais, voilà, à un moment j'ai quand même aussi exprimé ma vive préférence pour l'activité contentieuse.
Vous l'avez dit quand même, vous l'avez exprimé.
Oui, bah, à un moment il faut quand même, il faut quand même exprimer aussi. Donc il faut, voilà, il y a une partie de choses qu'on fait pour s'assurer que on va pas lâcher quelque chose pour se retrouver devant une porte close. Et puis à un moment de dire, bon ben voilà, moi ma préférence de collaboratrice, c'est quand même de faire ce métier-là. Après, je pense que le cabinet, moi je l'ai entendu aussi d'autres avocats, de gens qui parfois l'ont dit, et on lui a dit, mais là ça va pas être possible en fait. Donc si tu veux faire ce métier-là, il faut changer de cabinet, ce que certaines personnes font. Et puis d'autres où en fait le cabinet peut potentiellement tenir plus finalement à la personne, à se dire bon, si cette personne est un atout pour le cabinet au sens large, elle peut être un atout dans une autre équipe. Mais ça c'est de la gestion de ressources humaines, non ?
Oui, tout à fait. Et donc est-ce que vous avez un souvenir de vos premières plaidoiries, premiers dossiers, ce moment où vous rentrez vraiment dans une peau d'avocate au sens plus traditionnel du terme ?
Alors, je me souviens très bien de ma première plaidoirie qui était devant la cour d'appel de Douai. Et je n'avais pas osé, comme on le recommande à tous les jeunes avocats, d'aller voir le président de chambre ou pour expliquer que c'est sa première plaidoirie. Donc, je me souviens aussi d'avoir passé beaucoup de temps à me dire j'y vais pas, et puis de pas l'avoir fait. Ce qui n'avait aucune importance, mais voilà, qui sacralise un peu la première plaidoirie parce qu'elle a toujours un sens. Et puis ensuite les suivantes, je n'ai pas de souvenir précis. Elle s'était bien placée, bassée cette audience, la décision était bonne. Voilà, c'était, mais c'était, oui, ça a toujours un peu de sens quand même.
Combien de temps êtes-vous resté dans ce cabinet?
2 ans et demi.
Et qu'est-ce qui vous a fait en partir ?
Alors, je suis partie parce que, et ça va reboucler d'ailleurs avec ce que je vous racontais tout à l'heure, de cette espèce d'idée de parfois d'être toujours un peu en retard par rapport au savoir académique de mes confrères et consoeurs, c'est que... Je n'avais entre guillemets qu'une maîtrise, donc pas de DEA, pas de DESS, puisque moi j'avais quand même déjà fait une prépa, une école, donc j'allais pas multiplier les années d'études indéfiniment. Et en m'orientant vers le contentieux et puis de plus en plus vers l'arbitrage, je trouvais qu'il me manquait une formation en droit international privé, voire en droit international public. Donc, j'aurais pu aussi me former toute seule, mais j'avais très envie aussi pour des raisons personnelles d'aller aux États-Unis. Donc, j'ai postulé un LLM, j'ai été prise à Columbia et là, je me suis dit, tiens, voilà, là, c'est formidable parce que j'ai travaillé. Donc, j'ai étudié le droit, j'ai travaillé 2 ans et demi et maintenant, je vais aller étudier le bout du droit qui me manque. Et qui va vraiment me donner quelque chose de plus. Et puis en plus, je vais le faire avec sans faire 3 choses en même temps. C'est-à-dire que quand j'avais fait du droit, je faisais pour partie mon école de commerce. Parfois, je travaillais. Ça me plaisait, mais il y avait toujours autre chose en même temps. Donc il y avait voilà cette volonté de faire quelque chose ou de me dire pendant 1 an, je vais vraiment faire du droit et avec une maturité qui est la maturité de quelqu'un qui a pratiqué quand même. Donc qui qui est pas la même.
Ben j'allais rebondir parce que j'ai eu pas mal d'échanges ces derniers temps avec des jeunes avocats ou fin de d'élèves EFB, enfin sur le point de rentrer dans la profession. Et ils me disent, mais moi, là, dans mon domaine, on me recrute pas sans LLM. J'ai beau avoir fait tout ce qu'il faut et tout, on me recrute pas sans LLM. Et ça m'embête quand même de faire un LLM, alors que je préférerais garder cette cartouche. Déjà, il y a un sentiment de quand même d'une certaine forme d'injustice et de sélection sur l'argent qui leur est très désagréable. Et puis en plus, il y a un sentiment que ben moi je préfère garder une cartouche comme ça pour un peu plus tard, quoi. Faire un peu un gap d'évolution dans ma carrière, un moment. Et je pense effectivement qu'il y a quelque chose de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à reprendre les études après avoir commencé à travailler. Je trouve qu'on regarde l'apprentissage de manière complètement différente. Et du coup, j'allais vous demander, c'était quoi de reprendre les études, mais à la lumière de quand même déjà 2 ans et demi de pratique.
Alors moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et alors, c'est pas du tout la tendance aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Les gens ont de plus en plus de très beaux CV et donc le couronne par un LLM, etc. Mais dans le fil de leurs études. C'est très bien, mais ça, je pense, ça n'a pas la même saveur d'un point de vue personnel. Parce que d'un point de vue de l'entreprise qui embauche, enfin du cabinet ou de l'entreprise, je suis pas sûre qu'ils voient la. Enfin, il y a une différence, mais elle est peut-être pas aussi nette. Je trouve que la saveur de travailler et puis de reprendre ses études et de savoir pourquoi on les reprend, la parenthèse que ça ouvre, la satisfaction intellectuelle d'avoir une certaine pression, mais une pression différente, de pouvoir aller au bout des problématiques qu'on a pour préparer nos cours, pour faire nos devoirs, pour faire nos essais, etc., qui font quand même que dans la profession d'avocat, on travaille toujours sous une pression temporelle. Alors après, la différence, c'est effectivement ce qu'on est capable de délivrer dans cette pression temporelle et la qualité. Mais on est toujours parfois un peu frustré en se disant, tiens, donc on est un peu plus dégagé de cette question du temps permanente. Et puis voilà, le fait de réétudier, d'élargir son champ, de retrouver cette espèce de lenteur aussi de la vie étudiante quand même, qui fait que l'étudiant perd du temps. Et je pense que c'est une construction personnelle de perdre du temps, donc c'est pas grave. Mais voilà, de retrouver ça après avoir connu la vie professionnelle et en plus celle des avocats, qui est, bon, comme beaucoup de professions, très intense dans les 2-3 premières années, ce n'est que du bénéfice professionnel ultérieurement, sans aucun doute, mais personnellement, ça a une énorme valeur, je trouve.
Et quand vous êtes... alors, j'imagine qu'on n'a pas trop d'inquiétude pour sa carrière quand on quitte un cabinet pour aller faire un LLM à Columbia. Enfin, je veux dire, on se dit pas, oh là là, est-ce que je retrouverai du travail après ? Même si je pose la question quand même, est-ce qu'au moment de partir, je sais pas, vous avez eu des doutes sur le fait de quitter ce cabinet, de démissionner pour reprendre des études, ou vous étiez juste enthousiaste à l'idée de reprendre vos études pour ce LLM ?
Alors, je pense que l'enthousiasme prédominait, c'est sûr. Ensuite, alors quand on fait un LLM, souvent dans ce cadre-là, quand même, on le finance soi-même. Donc, il y a tout l'aspect financier qui est qu'on s'endette significativement pour ses études, ce qui est bon, classique pour des étudiants anglo-saxons, mais qui l'est moins pour des étudiants français. Donc la pression, elle est un peu de là, en fait, de se dire, bon, voilà, là, je me suis quand même endettée, il faut que ça en vaille la peine, enfin, il faut que ça fasse sens. Mais bon, après, j'avais pas beaucoup d'inquiétude, enfin, c'était une inquiétude rationnelle, de se dire, bon, voilà, je fais une décision, je quitte un cabinet dans lequel les choses se passaient très bien, avec des gens que j'admirais et que j'appréciais. Donc il y a une vraie rupture qu'on provoque, on va faire autre chose, on s'endette pour ça, J'étais pas très angoissée, mais c'est des vraies responsabilités d'adulte. Voilà.
Et quand vous êtes rentrée ?
Alors moi, je ne suis pas rentrée tout de suite. Je suis restée 2 ans de plus aux États-Unis et j'ai été embauchée par un autre cabinet, qui est un cabinet pour lequel je suis revenue en France après. Donc au total, j'ai passé à peu près 3 ans aux États-Unis.
Et cet exercice aux États-Unis ?
Et cet exercice aux États-Unis était très bien.
Vous faisiez du contentieux de l'arbitrage ?
Je faisais essentiellement de l'arbitrage et j'ai fait un peu de contentieux américain. Sur des dossiers, mais plus naturellement les dossiers d'arbitrage, et puis c'était pour ça qu'ils m'avaient embauchée d'ailleurs, venaient vers moi par rapport à des dossiers de contentieux, même si à l'époque les départements n'étaient pas si séparés que ça. Donc j'ai fait aussi tout ce qui n'est pas très sympa dans le contentieux américain, qui sont les phases de production de documents, de revue de documents, toute cette gestion documentaire qui assèche les sociétés qui, après quelques mois, en général, transigent tellement elles sont exsangues et épuisées de tourner toutes leurs ressources financières et intellectuelles vers la gestion du contentieux. Et puis après, voilà, l'arbitrage qui était plus classique et qui était quelque chose que j'avais déjà pratiqué avant le LLM.
Et c'était comment, du coup, d'exercer aux États-Unis ?
C'était très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais dans un cabinet américain qui s'appelle Cleary Gottlieb, avec des gens de qualité, avec une population très diverse. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'était New York, est-ce que c'est le cabinet aussi qui se faisait fort, ou qui, dans son marketing ou dans sa politique interne, insistait sur l'excellence, évidemment, mais aussi la diversité. Mais donc, effectivement, beaucoup d'horizons, beaucoup de ramifications. Donc, c'était très, très intéressant, très intriguant comme machine, parce que vraiment, on se retrouve dans un monde de machines productrices de droit, avec des services supports énormes, des gens qui travaillent 24 heures sur 24 pour revoir vos documents Word, pour faire des reprographies, enfin un monde très, très particulier, très intense.
C'est la principale différence que vous avez vue avec votre exercice parisien ? Ce côté machine productrice de droit ?
Alors le côté massif et machine, oui, on le retrouve pas dans les cabinets parisiens, c'est sûr, notamment par la taille en fait, hein, tout simplement, la sophistication du support à l'avocat qui est, je pense, poussé vraiment à son extrême, c'est-à-dire que l'avocat doit être celui qui produit les heures facturables. Et donc, il est essentiel que l'intégralité de son temps soit dédiée à la facturation des heures. Et donc, il ne perde pas de temps à des choses qui potentiellement ne seraient pas facturables. Donc, vraiment,
La mise en forme d'un document Word.
La mise en forme d'un document Word, la reprographie, le passage de fax, le courrier, votre déjeuner, le pressing. Tout ça, en fait, est fait. Vos billets d'avion pour vos vacances, tout est fait pour que, alors c'est très confortable, hein, pour que votre heure passée au bureau soit une heure en fait destinée à produire du droit et pas autre chose.
Et sur le contenu, est-ce que faire de l'arbitrage à New York, c'est différent que de faire de l'arbitrage à Paris ?
Bonne question. Pas forcément, mais alors aussi parce que l'associé pour lequel je travaillais à New York, j'ai ensuite travaillé pour lui à Paris. Donc au fond, il y avait une certaine continuité dans la manière de travailler ensemble. Et c'est quelqu'un qui aussi aime bien travailler avec des équipes relativement réduites. Les gens et leur approche du droit est très différente. Mais est-ce que ce serait différent d'un cabinet à un autre ? Enfin, c'était pas non plus fondamentalement un autre métier.
Et vous êtes rentrée à Paris parce que cet associé est rentré lui aussi ?
Je suis rentrée à Paris pour 3 raisons. Une qui était effectivement que cet associé rentrait à Paris. La deuxième, c'est que ma mère était malade, donc j'étais loin et c'était un peu triste. Donc ça, voilà, j'avais quand même aussi envie de rentrer pour être plus près d'elle. Et puis la troisième, c'est que mon mari, qui était donc devenu mon mari entre-temps, avait une proposition pour venir travailler en Europe aussi. Donc c'était un peu, on a eu le sentiment d'avoir un séjour un peu court à New York. Je pense qu'au fond, sans ces trois facteurs-là, on serait resté un peu plus longtemps. Ça a été un peu coupé en plein vol. Mais bon, en fait, ça devenait absurde de vouloir rester à New York coûte que coûte, alors qu'en réalité, voilà, tout faisait que ça faisait sens de venir en Europe et donc pour moi à Paris. Ouais.
Et ce retour chez Cléry aussi ?
Et donc, retour chez Cléry, qui en fait m'attendait, parce que dans les papiers de Cléry, en fait, j'étais quand même pas destinée à rester à New York. Donc, il y avait en fait une logique aussi de cabinet, qui était la logique de cet associé qui voulait monter sa pratique, qui voulait monter venir en support de la pratique arbitrale du bureau de Paris et monter aussi une pratique d'arbitrage d'investissement. Et en réalité, le bureau de Paris, en fait, ça rentrait dans une politique de cabinet, c'était pas vraiment une surprise que j'arrive. Et puis, oui, alors là, c'était assez particulier parce que j'étais la française de l'équipe américaine.
Et qu'est-ce que ça fait d'être la française de l'équipe américaine ?
Ça fait rien du tout, mais il y avait vraiment, c'est très agréable, hein, mais il y avait vraiment deux associés qui s'occupaient de l'arbitrage ou du contentieux au sens large. Donc l'un était l'associé qui venait du bureau de New York, Bob Gregg, qui était venu avec deux collaboratrices, dont moi. Et puis ensuite Jean-Yves Garraud, qui est l'associé de l'arbitrage et du contentieux Cléry, qui avait déjà une équipe constituée. Et donc est arrivée cette deuxième équipe qui a grossi, alors je ne sais pas en termes de taille aujourd'hui si elle fait plus ou moins la taille de l'équipe de Jean-Yves, mais qui était deux équipes qui travaillaient un peu ensemble, mais pas énormément, dont l'une où tous les collaborateurs étaient étrangers, sauf moi, et l'autre où, étonnamment, tous les collaborateurs, ce qui est classique, hein, étaient plutôt français. Hein. Donc j'étais encore dans cette espèce de, on appellerait ça un cluster aujourd'hui, de groupe. De groupes qui étaient le plus étranger, le plus arrivé tardivement chez Cléry Paris.
Et quel impact vous pensez que ça a eu, ce côté un peu cluster, sur votre évolution, à vous ? Je ne sais pas, dans votre positionnement, dans les dossiers que vous traitiez, est-ce que ça a donné une direction à ce que vous faisiez ou...
Alors, ça a donné une direction très international. Ça a fait que je faisais peut-être moins de contentieux, voire, en fait, j'étais pas destinée à refaire du contentieux finalement, ou relativement peu, alors que au fond, dans mes premières années, je faisais du contentieux et de l'arbitrage, et c'était deux pratiques que j'aimais bien. Ensuite, à New York, plus naturellement, j'étais tournée vers l'arbitrage. Quand je suis revenue, je suis restée avec cette pratique arbitrage. Et au fond, moi, je continue à bien aimer le contentieux, mais ça se dirigeait naturellement moins vers moi parce que j'étais plus identifiée à l'équipe à l'équipe arbitrage américaine. Mais là, c'est comme dans mes premières années. En fait, il suffit de faire son petit chemin et puis de dire que quand même, on veut bien faire du contentieux. Et puis finalement, les gens ont souvent plus de travail que pas assez. Donc quand on propose son aide, hein, c'est rare qu'on vous la refuse. Hein.
Donc c'est ça que vous avez fait. Vous avez manifesté. Vous avez refait le coup du soft power pour manifester l'intérêt pour le contentieux.
Un peu le coup du soft power en faisant quelque chose que permettent les cabinets, enfin qui est logique d'ailleurs, qui est que j'ai aussi pris des dossiers perso, ce qui m'a permis aussi de remettre un pied en contentieux, encore une fois vraiment par goût et par plaisir.
Et ces dossiers personnels, ils sont venus d'où ?
Ces dossiers personnels, ils sont venus de connaissances ou de famille. Mais un ou deux ont été extrêmement formateurs.
C'était du contentieux des affaires ?
Non, c'était du contentieux contractuel, de contrat de vente, d'expertise, donc assez classique en droit, enfin du droit des obligations, et puis pas mal de procédures judiciaires du fait de l'expertise. Donc là aussi, on se refrotte un peu tout simplement au dire, aux experts, aux procédures. Donc c'est une bonne... c'est un bon rafraîchissement.
Vous avez dit que ça avait été extrêmement formateur.
Oui, ça a été extrêmement formateur parce qu'en fait, quand on fait des dossiers perso, on est vraiment seul. Alors, on n'est pas vraiment seul et d'ailleurs, il ne faut pas être seul. Et il ne faut pas hésiter à en parler. Et chez Cléry, à l'époque, il y avait pas mal de collaborateurs du contentieux qui avaient une vraie activité personnelle. Donc c'était très facile de les consulter, de leur dire voilà moi j'ai un dossier perso, qu'est-ce que tu ferais à ma place. Et ils étaient plus chevronnés que moi, donc ils étaient de bons conseils, puis ils étaient intelligents tout court. Mais il n'empêche qu'à la fin on prend sa décision tout seul et qu'on décide de faire telle procédure ou d'aller faire une saisie ou d'aller faire quelque chose. Et donc ça fait grandir quand même dans une pratique, surtout dans des grands cabinets où on est parfois un peu étagé.
Et combien de temps a duré cette aventure chez Cléry en France ?
Un peu plus de 5 ans. Donc quand c'était même 2 ans à New York et 5 ans à Paris.
Et quand vous êtes partie, pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir ?
Alors, je suis partie parce qu'il y avait, il n'y avait pas de perspective d'association. En fait, je suis partie à un moment où je me suis demandé quel était le... ou plutôt avant de partir, on arrive à un moment où on se dit bon alors là voilà j'ai 8 ou 9 ans d'expérience, qu'est-ce que je fais? Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aime toujours ce métier? Est-ce que je veux le pratiquer comme ça? Est-ce que je veux aller en entreprise? Est-ce que je veux faire autre chose? Est-ce que je veux devenir magistrat? Enfin, il y avait une espèce d'éventail où je me suis dit qu'il fallait absolument que je réfléchisse à ce que je voulais faire parce qu'on est quand même comme avocat à cet âge-là, à un moment où il faut se décider. Et notamment, si on veut rester dans le métier, si on veut devenir associé, ça veut dire qu'il faut se lancer dans cet effort de faire savoir qu'on veut devenir associé et puis de donner du corps à son ambition. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai vu des chasseurs de tête, j'ai vu des gens qui vous donne des conseils. J'ai regardé quels étaient les métiers qui pouvaient me plaire en entreprise. Donc j'ai dû faire une espèce de réflexion qui est longue, hein, qui prend qui a au moins pris 6 mois, peut-être 1 an, puis on n'y réfléchit pas tous les jours non plus, pour finalement me dire que je voulais aller au bout de mon chemin d'avocat, donc je voulais en fait continuer à être avocate et que en fait, il était assez logique qu'en continuant à exercer ce métier, j'ai envie de devenir associée. Alors, je n'ai jamais trop envisagé de m'installer. C'était trouver une... Enfin, me dire, voilà, ce que je veux faire finalement, c'est ce métier, ça c'est sûr. Pour m'inscrire dans la durée dans ce métier, il faut que je pense à être associée quelque part.
Vous n'avez jamais envisagé de vous installer parce que propre à votre pratique, parce que vous aviez envie d'une pratique collective, quelle était la... Est-ce que c'est possible de s'installer en arbitrage ? Beaucoup de questions, mais...
Oui, mais vous avez raison. Je crois que c'est un peu tout. Je pense que la pratique en arbitrage, et puis à l'âge que j'avais... J'avais pas du tout. Enfin, c'est une pratique quand même relativement collective. On n'est pas forcément 10 sur les dossiers, mais enfin, souvent, on est 2, 3, 4. Donc, il y avait ça. Ensuite, j'avais pas de clients, véritablement. J'avais pas du tout dirigé mes efforts à ça. En fait, moi, j'avais vraiment fait beaucoup d'efforts pour être une bonne technicienne. Et puis, ces grands cabinets s'y prêtent pas tant que ça non plus. Mais bon, il y avait peut-être aussi une question de maturité. J'avais pas non plus prêté attention au fait que l'indépendance vient du fait qu'on a des clients, et donc pour avoir des clients, il faut évidemment en chercher. Enfin, il fallait avoir une maturité beaucoup plus tôt que ce que j'avais, moi.
Ouais, vous vous êtes réveillé à 8-9 ans, vous disant, mais en fait, j'ai pas vraiment fait de développement, quoi.
Oui, mais alors je pense que je n'ai même pas réalisé à ce moment-là que j'avais. Enfin, c'était un constat, évidemment, je n'avais pas fait de développement. Mais au fond, je n'avais pas de regrets non plus. C'était un fait. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il fallait que je décide, c'était ce que je voulais faire. Et une fois que je l'ai décidé, je me suis dit, bon, ben, je deviendrai associée. Et c'était plutôt dans l'idée de me dire, bon, ben, je voudrais devenir associée. Donc à ce moment-là, il faut que je développe des clients. Donc le fait de m'installer, ça me paraissait complètement à beaucoup plus lointaine échéance. Mais je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent plus tôt que moi à ces questions-là. Donc je pense que j'avais pas une grande vivacité sur le développement, etc. avant cette période-là. Bon, bon, voilà, après, on est plus ou moins vif sur les sujets.
Oui, oui. Je sais pas, j'ai pas de statistiques sur à quel moment les gens commencent à se poser des questions, mais j'ai quand même l'impression de voir pas mal de collaborateurs qui ont, alors peut-être pas 8, 9, mais peut-être plus autour de 7 ans, et qui se disent, mais en fait, qu'est-ce que j'attends de ce métier? Enfin, qui se posent un peu à ce moment-là la question de, bon, ben. Voilà, qu'est-ce que j'en fais, quoi, et comment est-ce que je me projette. Mais et alors, du coup, est-ce que vous êtes parti pour aller dans un endroit où développer? Est-ce que vous avez développé à ce moment-là? Et puis en fait, de toute façon, il n'y avait pas de perspective d'association chez Cléry. Comment est-ce que ça s'est un petit peu fait à ce moment-là?
Oui, alors l'analyse très rapide que j'ai faite, c'est qu'il n'y avait pas de perspective d'association chez Cléry. Et d'ailleurs, depuis, il n'y a pas eu d'associé. Donc voilà, c'était pas du tout une voie qui était envisageable pour des tas de raisons. Donc ça, c'était très facile de tirer la conclusion.
Ça vous a fait quelque chose ou non?
Oui, c'est enfin oui et non, oui et non. C'est-à-dire que je sais pas ce que je me suis demandé d'ailleurs. En fait, je pense que le constat était tellement évident que je me suis pas demandé si je voulais être associée chez Cléry. Mmh. Ce qui est sans doute une manière aussi
de se protéger.
Mais finalement, c'était très facile de me dire, bon, de toute façon, ce cabinet ne fera pas d'autres associés en contentieux et en arbitrage. Alors c'était facile aussi d'avoir vu que beaucoup de gens étaient partis avant, qui avaient de grandes qualités et qui objectivement auraient pu devenir associés s'il y avait une politique, une volonté d'association. C'était pas le cas. Moi, l'associé pour lequel je travaillais était sur un side track du partnership, donc de toute façon il avait plus le pouvoir de faire des associés, entre guillemets. Donc voilà, donc au fond, et je me souviens après quand des gens m'ont dit oui, mais de toute façon, tu sais, c'est très très dur, enfin c'est une vie difficile d'être associé chez Cléry, mais au fond, je crois que je ne me suis même pas posé la question, le constat était là. Et comme il était incompatible avec le fait que je m'étais dit que je voulais quand même devenir associé dans ce métier, c'était un peu sans émotion. Après, on est toujours triste de quitter des amis, des gens avec qui on a travaillé. Mais voilà, c'était très clair. Donc bon, bah, c'était pas là, donc il fallait que je parte, donc il fallait que je voie ailleurs.
Et alors?
Et donc alors, j'avais vu un cabinet de recrutement avec qui on avait profilé un peu le genre de cabinet vers lequel je pourrais me tourner, sachant que il y avait peu d'intérêt pour moi, ou en tout cas j'avais décidé à tort ou à raison qu'il y avait peu d'intérêt pour moi que de me retrouver dans des cabinets de structure identique à celle de Cléry, que ce soit un Sherman, un White & Case, etc. Parce que finalement, j'arrivais avec 8-9 ans d'expérience, mais en ne connaissant personne dans la structure, et avec des gens qui étaient dans ces structures-là depuis 8-9 ans, donc j'avais pas forcément quelque chose en plus d'eux. Mm. Et donc, de chercher plutôt un cabinet qui voulait acquérir de la compétence, de la technicité en arbitrage. Et à ce moment-là, j'ai rejoint Auguste de Bouzy, voilà, qui cherchait effectivement à conforter ou à asseoir une pratique d'arbitrage.
En qualité d'associé ?
Non, je les ai rejoints comme counsel, et puis je suis devenue associée 3 ans plus tard.
Donc, c'était le défi en arrivant, le challenge,
oui,
c'était, voilà, si vous arrivez à développer. Et ce développement, alors, que vous avez appris sur le tas au moment de cette prise de décision ?
Alors, ce développement, c'était...
Comment vous y êtes prise ?
Comment je m'y suis prise ? Bonne question. Alors, j'avais d'abord une plateforme... très très prône au développement. En fait, Auguste de Bouzy est un cabinet extrêmement actif en termes de marketing, en termes de démarche vis-à-vis de ses clients. Donc, il y avait beaucoup plus d'opportunités de rencontrer des prescripteurs que ce que j'avais jamais eu dans ma carrière d'ici là. Enfin, avant cela, sachant en plus que là, j'y étais ouverte, alors qu'avant, c'était pas vraiment mon souci. Puis, on n'a pas du tout parlé des côtés perso de ma vie.
Mais on peut en parler.
Mais avant, j'avais aussi une vie de famille, j'ai eu 3 enfants. Enfin, donc à un moment, on peut pas tout faire.
Non. Mais c'est bien de le dire. Moi, j'ai beaucoup de questions aussi sur les questions autour de la conciliation vie pro, vie perso et de comment les deux dialoguent ensemble. Donc, je trouve que c'est bien de dire on peut pas tout faire, et à un moment j'étais aussi concentrée sur mes enfants et ma vie de famille, et les questions autour du développement et de cette évolution de ma carrière sont venues à un moment où il y a un petit éclairci qui s'est profilé.
Exactement.
Du bien à beaucoup d'oreilles, je pense.
Oui, il faut, voilà, donc à un moment on peut pas tout faire, et puis on décale les sujets qu'on peut décaler. Puis on les fera au moment où on peut s'y atteler. Oui. Donc, il fait sans doute aussi, ça va faire partie de ma cécité, de me dire, de toute façon, ça n'a rien de me dire que je ne développe pas des clients. Je n'ai pas le temps de les développer. Donc, même que je n'ai pas beaucoup écrit d'articles à ces périodes-là. Voilà, des choses qu'on ne peut pas, en fait, on peut pas tout faire. Donc, si on fait déjà ce qu'on fait correctement, oui. C'est pas si mal. Effectivement, chez Auguste, j'ai plus d'enfants. Donc ça m'a... et puis j'étais plus mûre dans ma pratique, donc aussi quand on a un certain âge, on est quand même moins le jouet d'urgence qu'on ne gère pas, parce que ce sont des gens plus seniors ou des associés qui les gèrent. Donc en fait, on est juste là pour être à leur disposition et leur donner ce dont ils ont besoin. Donc quand on est plus âgé, on est quand même plus capable de gérer ces choses-là, de potentiellement gérer ses délais, gérer ses clients, voir les impératifs, ceux qui sont des impératifs et ceux qui en sont pas. Donc ça, voilà, ça.
La maîtrise de l'agenda, c'est tellement le sujet.
Ouais. Et c'est bon, après c'est vraiment un sujet d'âge, de maturité, un sujet un peu de maturité et beaucoup de séniorité. Donc à un moment, on peut maîtriser. Et puis à un moment aussi, on travaille plus vite. On voit quand même les solutions plus rapidement. Donc on peut gérer aussi des urgences sans se dire, tiens, ça, à chaque fois, c'est une montagne. On voit bien qu'il y a des grosses montagnes et puis des tout petits trucs. Donc ceux-là, on peut les gérer différemment. Donc tout ça, ça aide quand même.
Oui.
Donc quand je suis arrivée à ça, voilà, j'avais à la fois envie de développement... de l'appétence pour ça, plus de maturité pour le faire, et puis une plateforme qui était très dynamique là-dessus, qui encourageait vraiment les collaborateurs, les counsels et les associés à développer. Donc c'était un bon endroit pour apprendre.
Et c'était donc le cabinet qui vous présentait, enfin qui avait cette démarche là. Est-ce que du coup il y a eu quoi, de la rédaction d'articles, comment est-ce qu'on développe sa pratique en arbitrage? Ça semble tellement nébuleux comme pratique, l'arbitrage. Comment est-ce qu'on décroche des contrats en arbitrage,
Alors, comment est-ce qu'on fait ça en faisant plein de petites choses, et finalement on ne sait jamais laquelle marche ou laquelle fonctionne. En tout cas, moi je le sais toujours pas. Donc il y a une question un peu académique, qui est quand même qu'il faut avoir une visibilité. Mais ça, la visibilité, vous ne pouvez l'acquérir que si on vous confie des dossiers. Donc à l'origine, il faut quand même traiter les dossiers qui viennent d'autres associés qui, eux, ont des clients qui confient des dossiers. Mais se dire que
dans ce petit monde qu'est l'arbitrage, où quand on va plaider un dossier, on a forcément quelqu'un en face et forcément trois arbitres, au fond, la manière dont on va présenter son dossier va construire votre réputation. Et contrairement peut-être au contentieux, en fait, vous avez plus d'acteurs dans la pièce. Parce qu'en contentieux, vous avez bon un adversaire qui va pouvoir dire peut-être ah « ben, j'ai plaidé contre X ou Y et il ou elle est très fort, les écritures étaient impeccables, etc. » Bon, très bien. Mais vous n'avez au fond qu'un seul contradicteur ou parfois un peu plus. Dans l'arbitrage, vous avez aussi trois arbitres qui vont juger de votre prestation, qui vont voir si ce que vous faites, c'est du travail de qualité. Donc ça construit quand même vraiment votre réputation. Donc voilà, ça, on peut pas s'en passer, et c'est quand même un bon début. Ensuite, c'est un milieu qui adore quand même les colloques, les conférences, les think tanks. Les réunions, les young, les very young, les very very young, les babies, les seniors. Alors, ils n'ont pas fait de couleur very very senior, mais
ils ont eu l'élégance de
mais donc voilà, là aussi vous rencontrez des gens qui pratiquent avec vous, et vous pouvez, si vous êtes voilà, si vous êtes sérieux, ben, montrer que vous connaissez vos sujets, vous exprimer, rédiger des articles. Donc c'est peut-être nébuleux, mais c'est, je pense, un milieu dans lequel c'est relativement facile d'accroître ou d'asseoir sa réputation, parce que ça reste quand même un milieu qui se connaît bien et qui est pas aussi vaste que le milieu du contentieux, où il y a beaucoup plus d'acteurs, donc on est plus facilement dilué. Donc ça, je pense que c'est bien. Et puis après, reste la question des clients. Parce que c'est très bien d'être connu de ses pairs, mais ça n'apporte toujours pas de dossier.
Sauf en cas de conflit d'intérêts.
Voilà,
ou autre,
sauf pour ouais, voilà. Mais ça reste anecdotique quand même. Hein. En tout cas, il me semble. Et là, c'est le travail que vous pouvez faire, c'est de rencontrer effectivement des clients, et puis de voir quels sont les gens dans votre cabinet qui sont bienveillants, qui vont vous présenter des interlocuteurs, des clients qui sont les leurs et avec lesquels vous allez pouvoir discuter, vous mettre en valeur, et puis jusqu'à ce qu'ils vous confie quelque chose.
Donc il y a eu deux axes. Il y a eu l'axe développement de sa réputation et de sa notoriété comme praticien. Au stade par les pairs, reconnaissance de la compétence en fait. Ouais. Et puis après, il y a l'axe de développement auprès des clients. Et là, en tout cas, vous avez pas mal développé par le fait d'être présenté par vos pairs à des qui ne sont pas de cette matière-là, et notamment par vos pairs du cabinet Auguste pour des dossiers qui pourraient vous être confiés.
Alors oui, un peu, beaucoup en fait. Beaucoup aussi en travaillant directement sur des dossiers qu'à l'origine vous n'avez pas originés, que vous n'avez pas créés, mais qui in fine vous font avoir une relation avec le client qui après peut vous être fidèle.
Et objectif atteint au bout de 3 ans association.
Et objectif atteint au bout de 3 ans association, exactement.
Vous vous sentiez comment à ce moment-là?
Alors, le chemin vers l'association, c'est jamais un chemin parsemé de roses, hein, ou en tout cas, ça l'est pas toujours. J'étais très contente, évidemment, mais c'est un vrai effort en fait, hein, et c'est voilà, c'est une communauté d'associés qui vous admet en son sein, qui considère que, et a raison d'ailleurs, que cette communauté, il faut qu'elle, ce soit des gens qui se choisissent. Donc, c'est un vrai effort en fait de devenir associé. C'est rarement une reconnaissance. Enfin, c'est une reconnaissance in fine, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous le donne pas sans que vous soyez quand même vivement manifesté pour dire que vous vouliez faire partie de l'association.
Il faut vraiment aller le chercher. Ouais. Et vous avez des souvenirs de quelques épines sur ce chemin? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « Non, mais en fait, fuck l'association, quoi.
» Alors, ce n'était pas tant « fuck l'association », C'était le fait de devoir convaincre des gens qui pouvaient être réticents pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et la finalité de ça, quand même, c'est de se dire qu'on avance dans sa vie professionnelle que parce qu'il y a des gens bienveillants qui veulent vous faire avancer. Et je pense, c'est mon deuxième conseil, je pense qu'il faut choisir avec beaucoup de précision, quand vous êtes avocat ou avocate dans un cabinet, regardez si les gens avec qui vous travaillez sont bienveillants en fait. Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà fait des associés, si ça c'est votre objectif? Est-ce que ce sont des gens qui tendent la main, parce que s'ils pensent que vous êtes bon, ils tendront la main pour vous hisser au niveau de l'association. Et il y a des gens qui sont formidables, mais qui sont pas du tout préoccupés de la progression de leurs collaborateurs. Donc ils peuvent être très sympathiques, ils peuvent être d'excellents avocats, mais franchement c'est pas leur problème. Ces gens-là, il faut pouvoir analyser assez tôt en fait que si c'est ce que vous voulez faire, vous n'allez pas pouvoir compter sur eux. Alors c'est pas grave, hein, mais à ce moment-là, si c'est encore une fois ce que vous voulez faire, tournez-vous vers ceux qui en sont soucieux et qui se disent que s'ils vous apprécient, oui, ils vous donneront un coup de main.
Et vous aviez réussi à faire ce mapping et vous avez rencontré ces personnes qui ont tendu la main, du coup.
Alors, moi, j'avais pas fait de mapping conscient, mais je me suis aperçue. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mieux le faire encore, mais je me suis aperçue, oui, que je devais mon association à la bienveillance de certaines personnes qui m'ont vraiment tirée vers l'association. Voilà. Donc c'est vraiment, et je le constate, et c'est la même chose ici, c'est la même chose dans beaucoup de cabinets. Voilà, la bienveillance, fait être avec des gens qui sont prêts à donner de leur temps et de leur implication pour que vous progressiez. C'est des qualités qui sont pas si rares que ça. Elles sont souvent partagées, mais elles sont pas partout.
Elles sont pas partout, et puis elles sont pas forcément affichées de manière évidente.
Parfois,
il faut un peu aller gratter pour se rendre compte que, en fait, si la personne peut ou serait à même de donner ce temps et cette énergie. Et donc, l'association. Encore une nouvelle vie, encore une nouvelle étape.
Alors oui et non, parce que quand on s'inscrit comme ça, j'étais déjà arrivée en tant qu'un seul, je suis devenue associée. Ça change un peu, mais ça change pas non plus fondamentalement. Ça change beaucoup personnellement, parce qu'on se dit qu'on a on a franchi une étape.
J'allais vous dire, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'on évoquait votre premier stage, où vous dites que ça a mis du temps à s'évaporer ce sentiment un petit peu, peut-être de ne pas être aussi bonne que les autres, de pas avoir fait le parcours, etc. Enfin, tout ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes un peu infirmée, ou est-ce que c'était déjà avant? Enfin.
Non, je pense que c'était déjà avant.
C'était déjà avant, ouais.
Oui. Je pense que ça, c'est plutôt quelque chose de mes 3, 4, 5 premières années, peut-être, au maximum. Ouais. Et puis après, j'avais plus de complexe d'infériorité intellectuelle.
Ouais. Très bien. Donc, au moment de passer associé, vous étiez déjà affranchie de ça. Donc, c'était...
Exactement. Ouais. Oui, non, j'avais plus de... Après, on a tous des choses où on se dit, est-ce que je suis vraiment... Enfin, mais ça, c'est permanent. C'est même encore aujourd'hui. De temps en temps, on se dit, est-ce que je ne dis pas quelque chose de complètement stupide? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est normal? Enfin, bon, mais ça... Ça, je pense qu'en partie, ça fait progresser aussi, de se dire qu'on est... plein de fois, on se dit qu'on n'est pas au niveau. Je crois que je ne comprends pas, je crois que je ne sais pas.
Et comment est-ce qu'on surpasse ça? En tout cas, comment est-ce que vous le surpassez?
En ayant quand même un peu confiance, en se disant qu'il n'y a pas de raison que je ne sois pas au niveau, au fond. Donc, en combattant ça intérieurement, en se disant, bon... je ne rougis pas de ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc c'est que bon, fondamentalement, je ne dois pas être tellement plus incompétente ou qu'un autre. Et puis ensuite, en travaillant, en fait, pour... En fait, moi, c'est souvent des choses que je me pose professionnellement, en me disant, est-ce que j'ai vraiment bien compris ce problème, enfin, est-ce que je le, ou est-ce que c'est pas trop... Enfin, pas trop difficile, mais trop touffu. Et puis, au bout d'un moment, quand on s'attaque à quelque chose, en fait, il y a peu de choses qui résistent, en réalité. Donc, il faut juste faire tomber ce frein pour pas être tétanisé. Et puis après, se dire, bon, ben, en fait, si je m'y attaque, ça va pas résister. Parce qu'on est, normalement intelligent. Donc, voilà. Donc, en travaillant, on y arrive. Mmh.
Est-ce que... je suppose que quand vous accédez à l'association... peut-être qu'il y a un moment où on se repose un peu, non? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, là pendant 2-3 mois, je vais me lâcher un peu la grappe sur les objectifs, je sais pas. Est-ce qu'il y a un moment où on arrive à souffler après cette course?
Alors, je pense qu'on est obligé de souffler dans notre métier, mais que c'est très aléatoire, en fait. Je pense que c'est plus rythmé, en tout cas pour moi, c'est finalement plus rythmé par les dossiers ou par des choses personnelles qui font qu'à un moment, on se dit, bon là, en fait, je suis en train de rompre mon équilibre pro-perso, donc en fait, je vais souffler un peu ou je vais juste ralentir professionnellement. Mais c'est des choses qui ne sont pas liées à des paliers de progression ou... mais c'est quasi un équilibre quotidien ou hebdomadaire, en fait. De se dire, là, je tiens pas, j'ai à peu près, ça correspond à peu près à mon équilibre, ou là, ça correspond pas du tout à mon équilibre, et donc, bon, je tiens encore 2 semaines comme ça, et puis après, il faut que je souffle.
C'est quelque chose que vous arrivez bien à faire, ça ?
Bon, je sais pas si j'y arrive bien, en tout cas, je le fais.
Mais déjà, vous arrivez à le faire. C'est pas le cas de tout le monde.
Oui, il faudrait demander à mes enfants et à mon mari. Non, mais on sait.
Je devrais faire des interviews familiales.
Exactement, des interviews croisées. Non, mais on sait de temps en temps, on se dit, oulala, là, j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, au fond, ça ne correspond plus à ce que je veux, à quoi ma vie ressemble. Et donc, à ce moment-là, on fait des ajustements. Mais ces ajustements, ils sont... En fait, ils sont tout le temps, je pense.
Est-ce que vous avez la sensation de vous battre toujours pour maintenir cet ajustement ?
Alors, j'ai pas du tout la sensation de me battre. Donc, pour moi, c'est pas du tout un combat. C'est comme quand vous avez, je sais pas qu'on pourrait le comparer, vous savez, une balance Robert-Val, enfin quelque chose qui a un équilibre. Et puis, vous faites toujours attention. Alors, de temps en temps, vous savez bien que ça va déséquilibrer un peu ou que... que vous auriez peut-être pas dû partir à ce moment-là, mais qu'en même temps vous avez vraiment envie de partir en famille ou quelque chose, et donc c'est pas génial pour les dossiers, mais tant que c'est rattrapable, ça va. Et puis dans l'autre sens, mais vous savez qu'à un moment vous avez des gros coups de bourre, c'est quand même pas génial parce que vous allez manquer tel ou tel truc de vos enfants ou de votre famille. Puis bon, bah après on rétablit, mais c'est pas vraiment un combat, c'est une espèce d'horloge interne, ça va être comme l'oreille interne, je pense, qui fait l'équilibre.
Oui. Et alors, quand on accède à cette association, qui est quand même un peu un accomplissement, quoi, surtout que ça a été ardu, ça fait presque bête, mais justement, on a parlé tout à l'heure du fait que les carrières, enfin les évolutions dans la profession sont quand même très, il y a quelque chose d'assez linéaire, avec une hiérarchie qui est assez, enfin voilà, on arrive à l'association et puis ben ensuite on développe sa clientèle, on développe ses dossiers, mais enfin je veux dire, on est un peu en haut de cette pyramide, quoi. Et du coup, comment est-ce qu'on se projette à ce moment-là ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Comment est-ce qu'on se projette en termes de développement ? En tout cas, vous, comment est-ce que vous vous êtes projeté en termes de développement ? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire arriver à ce moment-là ?
Alors, bon, d'abord, moi, je pense que, en fait, quand on fait tout ce chemin dans cette profession, et donc à un moment, on est étiqueté associé, c'est qu'on aime le métier, en fait. Donc, au fond, on aime bien ce qu'on fait tous les jours. Et après, il y a des choses qu'il faut faire pour progresser, parce que... je sais pas, ça doit être un trait de la nature humaine, on a toujours envie de progresser. Donc on le fait pour devenir associé, on le fait pour... mais au fond, on aime bien, enfin en tout cas moi j'aime bien ce métier, j'aime bien ce que je fais au quotidien. Et bien sûr, ça change un peu. On agrandit la palette quand on devient associé, parce qu'en plus de faire son métier de base, on essaye d'être le meilleur conseil de ses clients, au-delà du métier technique, mais aussi de les aider dans leur stratégie, d'une approche d'un dossier, etc. Donc on augmente le niveau de valeur ajoutée de ce qu'on peut leur donner, mais ça reste quand même le métier. Et puis ensuite, il y a deux autres choses, je pense, qui sont très agréables. C'est d'abord qu'on se dit, en fait, maintenant, je vais avoir une équipe. Donc je vais être responsable de collaborateurs, je vais les former. Alors ça aussi, ça arrive pas du jour au lendemain. En fait, quand on est qu'un seul, on a déjà des collaborateurs et déjà on les forme. Mais là, on est encore plus responsable. Donc il faut les recruter, les former, leur expliquer comment on aime bien travailler, pour que ce qui nous rende soit conforme à nos attentes. Et puis faire en sorte aussi que l'équipe entre elles s'entende bien, même s'il y a toute une partie de choses. Plus ça va, plus on est âgé, et donc plus on est vieux par rapport aux collaborateurs. Donc on n'est plus après tout à fait dans le même monde. Mais en tout cas, faire en sorte que les équipes fonctionnent, que les gens s'entendent bien, qu'il y ait de l'intelligence collective. Et ça, c'est très chouette. Et puis ensuite, il y a l'aspect... donc il y a les dossiers, les clients, il y a les collaborateurs, et puis en fait il y a la communauté des associés aussi, qui est un terreau, qui a un vivier très intéressant, de gens qui sont souvent très bons, qui sont intéressants, et de se dire on peut avoir besoin de leurs conseils, on peut les conseiller aussi, et là aussi se dire en fait avec eux je peux apprendre. Et donc je peux augmenter ma valeur ajoutée, la pertinence de ce que je dis, la pertinence de ce que je fais. C'est quand même une vraie communauté des associés, même si on est dans des métiers très individualistes et où les avocats sont des gens qui aiment bien travailler seuls aussi. C'est un vrai sens de faire partie. Et c'était moi ce que j'avais. Quand j'ai quitté Auguste de Bouzy aussi, ce que j'avais très envie de rejoindre, qui était notamment le professeur Laurent Hennès, et puis après des gens que j'ai découverts ici, que je connaissais moins bien, mais qui me nourrissent et qui me permettent de grandir.
J'allais vous demander justement qu'est-ce qui avait motivé votre départ de chez Auguste.
Alors. Et j'ai pas parlé d'eux, mais les trois personnes qui m'ont vraiment aidé à être devenir associée chez Auguste, c'était Gilles Auguste, Emmanuel Barbara et Maasti Razavi, qui ont vraiment été clés dans ce chemin vers l'association. Et puis ensuite, donc je suis restée 3 ans associée, et en réalité j'avais déjà travaillé, quoique indirectement, avec Laurent Hennès. Et le cabinet ici d'Arroy cherchait à reconstruire aux côtés de Laurent leur pratique d'arbitrage. Donc ils avaient une équipe d'arbitrage qui les avait quittés 1 ou 2 ans plus tôt. Et Laurent et Inès les avaient rejoints pour assurer l'arbitrage. Et puis finalement, il fallait plus d'associés, plus d'équipes. Et donc Laurent, qui m'avait justement vu plaider, que je connaissais un peu mais pas si bien, m'avait contacté, via un recruteur. Et puis le projet me plaisait beaucoup, et le fait de rejoindre le cabinet et Laurent Hennès étaient deux vrais moteurs.
Comment vous voyez le cabinet d'Arroy depuis l'extérieur ? quand vous étiez... Parce que je suppose que quand on est associé, justement, quand on rejoint une structure... D'ailleurs, c'est peut-être une question qu'on peut se poser, qu'on devrait même se poser avant. Mais vous, quelle était votre image quand vous rejoignez ce cabinet?
Alors, c'était pas un cabinet que je connaissais très bien, puisque finalement, les seules personnes que je connaissais étaient leur équipe arbitrage, qui n'était plus dans les murs. Et après, c'est un cabinet qui a une réputation d'excellence, qui a un chouette cabinet, mais au fond que je n'identifiais pas en termes d'individus, ou très peu. Donc je connaissais pas très bien, je connaissais Emmanuel Brochier, un peu Cyril Bonan, parce que j'avais fait un dossier contre eux. J'avais eu l'occasion de croiser Mathieu Brochier et Didier Théophile, mais très peu. En réalité, très peu. Et j'avais pas beaucoup de... Je suis pas très à l'écoute des cabinets, ou je suis pas très très au fait, en fait, des cabinets, de ce qui leur arrive, des départs, des arrivées, des réputations.
Alors moi, je vous pose plus cette question en ayant en tête une notion d'affectio societatis. C'est-à-dire, parce que justement, quand même, quand on est associé, il y a cette logique de...
Oui, ce que je vous disais d'ailleurs, de communauté d'associés.
Et du coup, j'imagine que c'est aussi une question qui se pose quand on rejoint une communauté d'associés, de se dire,
Je vois votre point. Ouais. Alors, effectivement, donc, j'avais pas beaucoup de, d'images sur le cabinet ou d'idées très précises. J'ai rencontré tous les associés. Et c'est certain que parmi les choses qui en sont ressorties, c'était qu'il y avait une vraie communauté d'associés. Donc c'est un cabinet qui a un sentiment, qui crée en fait un sentiment d'appartenance très très fort. Je n'ai toujours pas percé le pourquoi. Alors est-ce que ce sont les fondateurs? Je ne sais pas si je pourrait le reproduire ou si c'est reproductible, tout court. Mais en tout cas, c'est un cabinet dans lequel, qui d'ailleurs, pour préserver ça, je pense, ne tient pas plus que ça à grossir. Donc il y a une vraie volonté de rester relativement petit et d'avoir un ratio collaborateur associé faible aussi. Et tout ça, plus les personnalités, plus je ne sais quoi, fait qu'il y a un sentiment d'appartenance très fort, et chez les collaborateurs, et chez les associés. Voilà, donc ça ressortait de mes entretiens, et d'ailleurs, quand je les ai rencontrés, j'ai vu absolument tous les associés.
Et ça s'est confirmé au moment de rejoindre l'équipe.
Et ça s'est confirmé, oui, c'est vraiment... et donc maintenant, je suis fondue dedans. Et
ça
donc,
fait combien de temps maintenant?
Ça fait 3 ans et demi. Et donc, moi aussi, j'ai un sentiment d'appartenance fort.
Ouais. Et ça, je suppose que ça participe au fait que vous êtes bien ici.
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est aussi un cabinet dans lequel il règne une grande liberté, en fait. C'est-à-dire que c'est un cabinet parce qu'il y a un seul bureau, parce que tout est ici, parce qu'on n'est pas très grand. Il y a une grande liberté dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on peut faire, dans les échanges, dans la gestion. Alors c'est très bien géré, mais la gestion n'est pas quelque chose de très prégnant dans le cabinet, en fait. Voilà, donc ça, je m'y retrouve aussi. Et peut-être que c'est ça aussi. C'est marrant que cette liberté crée peut-être le sentiment d'appartenance. Je ne sais pas, je n'ai pas tout percé encore.
Non, mais c'est intéressant parce que en termes de marché du droit, je trouve ça intéressant de se dire, on est un cabinet d'affaires et un cabinet d'excellence, mais on n'a pas forcément envie de grandir, on n'a pas forcément envie de, et quelque part d'en faire quelque chose où on vient affirmer les autres côtés de ça, c'est-à-dire aussi peut-être plus de liberté et de simplicité dans la gestion. Qu'est-ce que ça permet en termes d'affectio societatis et de relations entre les associés? Je trouve que ça amène à des réflexions intéressantes, quoi, d'un point de vue entrepreneurial. Mais voilà, c'est tout.
Non, mais je suis d'accord avec vous, absolument. Je sais pas, vous avez dans, peut-être que c'est secret d'ailleurs, mais je sais pas si vous connaissez des collaborateurs ici, si ça reflète ça aussi. parce que c'est intéressant de voir à d'autres échelles. Hein.
Non, je ne connais pas de collaborateurs ici, donc je ne peux pas... Je ouais. peux pas vous divulguer d'informations, mais effectivement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et comment est-ce que vous vous projetez maintenant ?
Alors ça doit faire partie des choses qu'il faut que je fasse. non, là j'ai absorbé évidemment la période d'adaptation.
Mais oui, on n'a pas parlé du coronavirus. Comment est-ce que vous avez passé cette crise, cette période? Comment ça s'est passé pour vous?
Oh, ça s'est passé de manière plutôt agréable en fait. La transition en télétravail s'est faite très facilement. Sans aucun à-coup et sans aucun couac. Qu'on aurait pu craindre, informatique ou même de ressources humaines. Donc c'était très, ça a été aussi doux que soudain en fait. Donc moi j'ai pas grand chose à raconter sur.
Tant mieux.
Sur cette crise, après comme tout le monde, on a eu moins de voyages, on est resté chez nous, on a gagné en heures de sommeil aussi parce que moins d'activités de tout genre.
Vous avez remarqué une baisse dans vos activités au cabinet en termes de dossiers ?
Non, alors nous pas du tout, voire alors est-ce que s'il y a une augmentation ? Une légère augmentation, mais en fait, on était en période où on montait en charge sur certains dossiers parce que leur maturité avançait, qu'on avait des deadlines, des dépôts, etc. Donc en fait, la montée en charge s'est poursuivie. Elle n'a pas du tout été freinée. Elle a été, je pense, facilitée parce que le retour qu'on a aussi de certains collaborateurs, c'est que quand même, il y a moins de distractions au sens général du terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas de gens qui passent dans votre bureau, vous n'avez pas potentiellement un théâtre le soir.
Et pas de dîner.
Pas de dîner, etc. Donc en fait, toute cette absence de distraction a fait qu'on a pu absorber la montée en charge et qu'on a été beaucoup plus performant que d'habitude. Maintenant, c'est pas destiné à se pérenniser parce que ça fonctionne très bien aussi parce qu'on se connaît très bien et qu'on peut se parler sur Teams ou sur Zoom, que la conversation est très fluide, qu'on sait ce que j'attends, qui fait quoi, etc. On ne pourrait pas avoir des nouveaux collaborateurs avec la même qualité si on ne les connaissait qu'en télétravail. Mais pour tout ça, ça a été assez bénéfique. Et puis, ça a libéré un peu de temps parce qu'il y avait plus de voyages, plus d'audiences. Donc, nous, on a beaucoup plus travaillé, mais ce qui était prévu, mais on a travaillé beaucoup plus efficacement, je pense.
Est-ce que le télétravail était déjà assez institutionnalisé chez Darwa avant le coronavirus ?
Non, je pense que c'était très sporadique.
Et est-ce que vous envisagez de l'institutionnaliser plus ? Enfin, l'institutionnaliser, c'est un grand mot, encore une fois, sans forcément mettre l'avantage du contrat de collaboration, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin, contrairement au contrat de travail, de le préciser dans le contrat et faire une modification. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça a fait évoluer est-ce que vous avez déjà parlé à vos collaborateurs ? Est-ce que vous avez vu émerger des demandes de « Ah tiens, peut-être que 2 jours par semaine, j'aimerais bien que ce soit du télétravail ou quelque chose comme ça ? » Est-ce que c'est des choses qui ont commencé à émerger ?
Alors, c'est des choses qui commencent à émerger, sans doute. Après, je pense qu'il y a deux éléments qui font que... je ne sais pas jusqu'où on ira. Le premier élément, c'est que nos avocats sont des collaborateurs, en fait. Donc, on n'a pas à leur dire... combien de jours par semaine il faut qu'ils soient au cabinet, enfin à leur imposer une présence. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que le cabinet n'est pas très formel de toute façon. Donc ce qui est sûr, c'est que le regard sur le télétravail, qui était très sporadique ici, va changer. Mais il n'y aura pas de politique dans un sens ou dans l'autre. Mais encore une fois, à la fois parce qu'il y a un problème de structure, on n'a pas à imposer des politiques. Et puis un autre parce qu'on n'est pas un cabinet qui va imposer des choses. Mais je pense que le regard, effectivement, sur le télétravail, On va se dire, ben, c'est pas force quelqu'un qui va dire, ben, voilà, je ne serai pas là demain. On va pas se dire que c'est forcément parce que c'est une vraie fausse journée off.
Mmh.
Ça peut être tout aussi efficace.
Oui, mais ça change quand même beaucoup de choses, parce que quand bien même on formalise pas, parce que contrat de collaboration libérale et que c'est pas la politique de la maison, moi des collaborateurs qui aimeraient bien hein, dire demain je serai pas sur place, mais qui dans la enfin part du principe pense et peut-être aussi pense d'expérience que dans la tête du patron ça équivaut à je travaille pas. Je connais majoritairement ça. donc du coup c'est intéressant de voir peut-être les répercussions en termes de ce regard ayant changé, qu'est-ce que ça occasionne dans la pratique au quotidien, quoi. Enfin,
en tout cas, je pense qu'on verra. C'est intéressant. Ouais. Je pense qu'on verra.
Mais vous, en tout cas, à titre personnel, vous avez vu un changement peut-être de votre appréhension par rapport au télétravail?
Bonne question. Oui, mais moi, j'ai jamais été. En fait, le télétravail en soi est pas très significatif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des collaborateurs qui vont venir bosser un mardi et puis en fait, ils sont pas motivés. Ils ont peut-être des tas de bonnes raisons d'être perturbés, dérangés, fatigués, bouleversés, enfin ce que vous voulez. Et donc ils font que, et on a tous vécu, on a des journées au travail où on est quand même plus ou moins productif. Et pour moi, au fond, télétravail ou pas télétravail, il y a des journées où vous êtes plus ou moins productif. Donc c'est presque un autre débat pour moi. Après, je suis très attentive à ce que quand même on ait une vie
ensemble.
On ait une vie ensemble, voilà. Parce qu'on n'est pas juste producteur de quelque chose et puis on est producteur de valeur ajoutée. En fait, quand même, cette valeur ajoutée, à un moment, je veux dire, combien de fois on a tous eu une très très bonne idée en discutant d'un autre sujet avec quelqu'un, mais à qui tout d'un coup a dit, ah mais au fait, tu sais, j'ai pensé à ça, peut-être que toi, ça. Et là, paf, on a. Donc ça, il ne faut pas le perdre.
Non. Et par Zoom, c'est plus compliqué.
Et par Zoom, c'est plus compliqué parce qu'on a des conversations par Zoom ou par Teams qui sont beaucoup plus professionnelles. Donc on est là pour parler d'un sujet, on fait le tour du sujet et puis c'est tout. Parce que d'ailleurs, on a le call d'après en général. donc voilà, donc c'est un espèce d'équilibre. Mais le télétravail en soi n'est ni désirable ni haïssable en fait.
Donc, pour en revenir à cette question de comment est-ce que vous vous projetez, il y a eu cette phase-là de coronavirus dont vous êtes en train de...
Alors, c'est pas tant le coronavirus a pas tellement d'impact sur la manière dont je me projette. Là, c'est plus que ça fait 3 ans et demi que je suis dans ce cabinet. Donc, effectivement, une fois que... Maintenant, je me dis que quand je suis arrivée, je me suis projetée sur les 3 premières années, à voir comment ça se passait, comment ça s'installait, ce que ça devenait. Logiquement, il faudrait que maintenant je me projette sur les 5 prochaines années en me disant bon, à quoi est-ce que je veux que ressemble la pratique aujourd'hui. Voilà, et ça, c'est un travail que j'ai pas, que je sais qu'il faut que je fasse, qui sont des choses auxquelles il faut que je réfléchisse, et qui est en cours et qui n'est pas vraiment abouti. Donc à un moment, je pense que d'ici la fin de l'année, je me dirais voilà, est-ce que sur quels éléments est-ce qu'on veut se lancer, quels sont les axes de développement. Alors il y a des choses différentes. C'est quels sont les axes de développement que je veux développer. Donc ça c'est du concret, c'est du court terme. Quels sont les clients que je veux développer, quels sont le type d'affaires sur lesquels je veux me positionner. Est-ce que je veux avoir plus de mandats d'arbitre, moins de mandats d'arbitre? Sur quel secteur, enfin bon, voilà, tout ça c'est bien d'avoir des objectifs et voilà. Et puis après il y a la réflexion, donc ça ça va pas prendre 6 mois, et j'aurais dû l'avoir peut-être en début d'année effectivement s'il n'y avait pas eu le corona et qu'on n'avait pas fait autre chose.
Peu importe, ouais. Vous l'aurez.
Et puis après il y a l'autre question qui est un peu plus intangible, qui est de se dire tiens, dans 5 ans à quoi est-ce que je veux que ressemble l'arbitrage chez Darrois. Ça, c'est un peu plus compliqué.
Voilà. Et ce travail de quel secteur, quel client, quel type de dossier, tout c'est quelque chose que vous aviez déjà fait peut-être il y a quelques années. Est-ce que c'est un est-ce que vous avez l'impression de resserrer maintenant d'être à un moment où vous avez envie d'être plus ciblé dans votre manière de travailler et de vous développer ou est-ce que c'est déjà une réflexion que vous aviez eue il y a quelques années au moment de commencer le développement?
Non, c'est une réflexion qui revient périodiquement, je pense. Après, plus les années passent et plus on est défini comme professionnel quand même. Donc, on voit bien qu'on a des dossiers dans tel ou tel secteur, ou bien qu'on a voilà tel ou tel client qui sont fidèles. Et donc, on se dit bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour élargir ce spectre-là ou pour l'approfondir au choix.
Et vous, c'est quoi votre définition?
Ma définition de...
Comment est-ce que vous pensez que vous êtes définie, vous, comme avocate?
Oh, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je saurais pas vous dire, vraiment. Puis en plus, je pense que les rares fois où je me suis lancée dans l'exercice, je me suis aperçue que j'étais pas du tout perçue comme je pensais que j'étais perçue, donc je...
Ah, c'est très intéressant, ça. Vous pensiez que vous étiez perçue comment, et comment est-ce que vous étiez perçue?
Alors, je pensais que j'étais perçue comment. Alors, j'avais pas projeté jusque-là d'ailleurs, mais j'étais perçue comme quelqu'un de. L'image qu'on m'a renvoyée était beaucoup plus stricte et beaucoup plus sévère que ce que je pensais. Donc, quelqu'un comme quelqu'un de très exigeant, très strict, très bon, ce qui doit être vrai, hein. Mais je me souviens que ça m'avait surpris. J'avais pas formalisé comment je pensais qu'on me voyait, mais en tout cas, je me suis dit, ah oui, quand même.
Ouais, d'accord. Et est-ce que ça vous a invité à vous demander comment est-ce que vous pouviez, je sais pas, peut-être ajouter... Pour vous, le décalage, il était dans une certaine une petite dose de fantaisie, de... C'était...
Oui, sans doute, ça devait être ça. Je devais m'attendre peut-être à quelque chose de moins rugueusement professionnel. Bon, non, j'ai pas changé grand chose.
Non,
vous avez dit, ah bon.
Bon, ben, ok. Et comment est-ce que vous auriez envie de vous définir?
Comment j'aurais envie de me définir?
Je vous accélère un peu la réflexion des six prochains mois.
je saurais pas vous répondre non plus. Je pense que, et puis. Là, on est sur des discussions qui sont très orientées sur la profession d'avocat, le métier d'avocat, l'exercice d'avocat, et on n'est quand même pas tous, personne n'est unidimensionnel.
Ben non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, moi, je vous demande pas de vous définir de manière unidimensionnelle.
Non, mais à ce moment-là, enfin après, on peut, enfin, il y a des tas de comment est-ce que j'ai envie d'être perçue comme amie, comme mère, comme membre d'une famille, comme avocate aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc là, il y a plein de choses, et puis après, on va pas s'en sortir.
Non. Non, mais c'est bien de l'avoir apporté, mis sur la table. Et quelle est votre dernière joie?
Écoutez, j'allais dire spontanément, en fait, d'une certaine manière, le confinement, en fait. C'est-à-dire cette espèce de... alors, évidemment, pas du tout les questions d'urgence sanitaire, etc. Ça, mais le fait de se retrouver en tout petit comité avec plus aucune autre forme de distraction, d'avoir une espèce de sabrage que j'ai pas moi trouvé très violent, mais qui était très soudain de tas de choses, faisait cette espèce de recentrage qu'on a tous eu, était pas désagréable. Et donc en fait moi ça m'a, je me disais tiens c'est vraiment intéressant, et finalement intellectuellement je trouvais ça assez, ça me faisait sourire, je me disais tiens c'est marrant, puis de voir je sais pas comment réagissaient mes enfants, comment réagissaient mes proches, comment est-ce qu'on redessinait notre vie qui est une vie où moi j'ai des adolescents, enfin voilà, leur vie elle est un peu au lycée, beaucoup au lycée, un peu au collège, un peu à l'extérieur, un peu, et moi ma vie professionnelle aussi, normalement elle se limitait pas à une chaise, un bureau et un écran. Et au fond, ce recentrage-là, je l'ai trouvé assez joyeux, assez chouette.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Mes vêtements.
Merci beaucoup, Karine.
Merci.